RCF.
10h, 11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
Et prenez-en de la graine, c'est votre émission du vendredi consacrée au jardinage pour apprendre à bien s'occuper de son jardin, de son potager, de ses plantes tout en prenant soin de la planète. Alors, si vous avez une question de jardinage, si vous avez besoin d'un conseil, venez directement à l'antenne, c'est plus simple, au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23, ou alors par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Et on a le grand plaisir ce matin d'accueillir Dorothée Fallière. Bonjour Dorothée.
Bonjour Melchior.
Notre jardinière au naturel qui nous rejoint une fois par mois depuis Bordeaux, dont on salue toute l'équipe. Dorothée, comment va votre jardin ?
J'adore cette question. Je me suis dit, cette fois-ci, je vais m'y préparer. Écoutez, il va bien. Il est très beau. J'adore cette période parce que là, le jardin, il explose. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout est en fleurs. La pelouse pousse. Alors, par contre, il faut bosser hein, parce que là, il y a du boulot. Hein. Faut pas se laisser, comme on dit, j'aime pas me laisser déborder. Voilà, parce que sinon, après, on devient un peu esclave. Donc, faut pas se laisser déborder. Ce week-end, avant d'aller dîner chez des amis, on va tondre sa pelouse. Il faut vraiment que le jardin soit à peu près suivi en cette période. Oui. Mais sinon, il va bien. Il va bien. Un peu,
pas
on
eu
est
trop
tous
d'eau.
Un peu dé. Si on est
quand même, hein,
d'eau, là, ils annoncent 28. Oui.
Enfin, sauf dans les départements, et on salue et on pense vraiment à toutes celles et ceux qui ont subi malheureusement les crues dans certaines régions, certains départements. Après, quand il pleut pour les jardins, vous savez, c'est toujours plus agréable de dire il pleut plutôt que on est en période de sécheresse, hein, Dorothée.
Exactement. Le problème, c'est aujourd'hui, c'est que des excès, quoi.
Ouais, voilà. C'est ça.
Soit on est inondé.
Vous avez tout dit.
Et là, ils annoncent, je crois, pour samedi, ils annoncent chez nous dans le sud-ouest, ils annoncent 28 degrés. C'est un peu fou, quoi.
Ouais.
Voilà, alors il va falloir vraiment qu'on puisse penser, c'était un petit peu le fil rouge que vous aviez envie d'aborder, il va falloir penser un petit peu à protéger nos plantes contre la chaleur, de manière à un peu éviter que notre jardin soit trop abîmé pendant cet été. Ça, c'est vraiment important. Et en fait, je réfléchissais, aujourd'hui, il faut vraiment, quand vous allez dans une jardinerie, avoir ce réflexe-là. Est-ce que c'est une plante qui va résister à la sécheresse ? Il faut plus acheter, ça c'est joli, oui, mais est-ce qu'elle va résister à la sécheresse ? Donc aujourd'hui, il y a plein de plantes qui résistent à la sécheresse, mais il faut vraiment, c'est comme quand on va semer sa pelouse. Aujourd'hui, il faut plus prendre les mêmes graines de semences parce que si vous voulez pas dépenser trop d'argent dans l'arrosage, il faut absolument utiliser aujourd'hui des semences qui sont sélectionnées et qui permettent des arrosages vraiment très 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 réduits. Hein. Dans le pays d'Afrique, il y a ça, des graines résistantes sur des golfs, par exemple à Ibiza ou en Espagne.
Oui.
Vous avez des graines pour que les greens restent verts sans trop d'arrosage. Donc il faut vraiment qu'on repense un petit peu notre manière d'acheter et de consommer en ayant ce réflexe à chaque fois de nous dire « Tiens, ça peut pas aller parce que je vais dépenser beaucoup d'eau. » Voilà, moi j'aime beaucoup les hortensias, mais les hortensias
consomme,
sont des plantes qui ont besoin...
Ouais.
Voilà, qui consomment de l'eau. Donc il faut faire attention quand... Exactement, il faut faire des choix judicieux. Et puis, je pense que dans les jardineries, il y a des gens qui sont vraiment professionnels et calés pour nous indiquer les bonnes plantes et pour les bons usages.
Dorothée Fallière qui attend toutes vos questions de jardinage ce matin au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Alors, bien sûr qu'on va en parler hein, de l'état de nos jardins en ce début avril. Je voulais aussi qu'on parle, alors ça c'est plutôt votre idée, mais des plantes qui soignent les autres plantes. Alors il va falloir m'expliquer un peu plus.
Alors en fait, c'est pas nouveau, hein, c'est pas quelque chose qui vient de... Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de protection de la nature, protection de l'environnement. Et déjà, les anciens s'étaient aperçus que certaines plantes étaient bénéfiques pour soigner d'autres plantes. Alors, on les utilise surtout sous forme de purin ou des formes de macération. Mais par exemple, on sait que des plantes comme l'ortie, eh bien, est une plante qui va fortifier la plante parce qu'elle est, elle va être riche en azote, mais ça va aussi pouvoir être utilisé pour combattre certaines maladies cryptogamiques, c'est-à-dire des maladies de champignons. Voilà, on sait que par exemple la consoude, c'est une plante qui est riche en potasse et ça va pouvoir fortifier la plante et lui permettre d'avoir une très bonne floraison. Vous voyez, donc toutes ces plantes qui existent dans la nature et qui souvent, sans qu'on le sache, sont dans notre jardin. Et en fait, toutes ces plantes-là, eh bien, vont pouvoir, si on fait des décoctions, des macérations, soigner nos plantes. Donc voilà. Et ça évite d'utiliser des produits chimiques et on va protéger ainsi toute la flore environnante et notamment et la faune, hein, oui. Les abeilles. Donc voilà. Donc ça, c'est très important. Et ça, je veux dire que c'est pas quelque chose de nouveau. Les anciens le oui. pratiquaient beaucoup. L'ortie, c'est vraiment un truc de grand-mère, quoi. Hein. Mais ça revient très à la mode. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que tous ces purins, si on n'a pas envie de les faire chez soi, d'abord parce qu'on n'a pas la plante, et puis ou qu'on n'a pas la place, ou qu'on n'a pas envie, mais on les retrouve dans les jardineries, dans les rayons bio, vous trouvez des purins de prêle, des purins d'ortie, voilà. Et il faut savoir que c'est utilisé non pas seulement par les jardiniers maraîchers, mais c'est aussi utilisé en grande culture. Par exemple, nous à Bordeaux, où on a quand même beaucoup, beaucoup de vignobles, eh bien, on voit que tous les agriculteurs qui ont envie de passer en bio, enfin les viticulteurs qui ont envie de passer en bio, eh bien, utilisent ces décoctions et les font eux-mêmes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de...
Oui. Pardon, non, mais je vous ai coupé la parole, mais c'est, voilà. C'est ce qu'on appelle les purins naturels, c'est ça ?
Exactement. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on appelle des purins naturels. Voilà, et en plus, c'est très facile à faire. Par exemple, il y a quand même des petits inconvénients. Par exemple, le purin d'ortie, c'est très facile à faire. C'est un peu long parce qu'il faut quand même que la macération dure 15 jours. En fait, il y a une fermentation. Le seul inconvénient, c'est que ça sent très mauvais.
Ah oui,
voilà. Donc, si vous avez un petit jardin avec des voisins un peu collés, voilà, ça peut sentir très mauvais. Donc, soit je vous conseille de le faire au fond de son jardin. Mais par contre, c'est très facile. Et puis, vous pouvez, avoir récolté avec 1 kg d'ortie fraîche et 10 litres d'eau, on peut faire donc son purin et puis ensuite le distribuer à des voisins.
Je vous propose, Dorothée, d'entendre la première auditrice de cette matinée. C'est Marie-Josée au 04 72 38 23. Marie-Josée, vous habitez à Annecy, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour. Je croyais que vous alliez donner mon numéro de téléphone.
Ah non, mais attendez quand même. Un peu de respect, jamais.
C'est un petit problème. Mais enfin, j'ai de la mousse. J'ai une maison qui est orientée plein sud. Et pourtant, j'ai de la mousse partout. Aussi bien côté sud que derrière côté nord et sur les arbres à droite, à gauche, partout.
Beaucoup de mousse.
Énormément de mousse. Je sais pas vraiment du tout comment ça se fait parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de lumière quand même l'après-midi côté nord.
Ouais. Alors en fait, Marie-Josée, la mousse a dû prendre un peu le dessus sur les graminées et ce qu'il va falloir, c'est ce que l'on appelle scarifier la pelouse. C'est un petit engin, soit électrique, soit manuel, qu'il faut passer. Ça peut ressembler un peu comme une petite tondeuse manuelle et ça a des petits couteaux qui va vous arracher la mousse. Donc ça, c'est très important de scarifier votre pelouse. Donc en principe, on le fait plutôt à l'automne, mais si vous êtes envahi, faites-le maintenant. Et ensuite, vous mettez un engrais naturel, par exemple à base d'azote, comme du sang séché, pour que les graminées, c'est-à-dire l'herbe, puissent reprendre le dessus par rapport à la mousse. Donc cette mousse, elle va se décrocher avec le scarificateur. Vous la mettez dans votre compost, par exemple, ou vous pouvez même vous en servir comme paillage. Ça peut être intéressant pour retenir l'eau pendant les périodes de sécheresse. Mais il faut absolument l'enlever, cette mousse. Voilà, ça c'est vraiment très très important. Et il faut que la pelouse puisse reprendre le dessus par rapport à la mousse. La mousse, elle est en train d'étouffer l'herbe.
Voilà, Marie-Josée.
J'avais entendu que la mousse ne meurt jamais.
Voilà, la mousse...
Alors, elle meurt dans mon compost.
Non, mais dans le compost, vous pouvez aussi la mettre sur vos plantes. Si, et ça va se composter. Hein, oui. Ça va se composter. Si votre compost il monte un peu en température, ça va se composter. Vous pouvez la mettre aussi, ça peut être intéressant de la mettre dans vos plates-bandes. Parce qu'avec...
j'essaie de la retirer, justement.
Ah bon, mais retirez-la. Retirez-la. Moi, je l'utilise, mais retirez-la.
Bon.
Mais surtout, scarifiez votre pelouse. Ça, c'est très important. Ça va l'enlever. Ça va aérer votre pelouse. L'endroit où vous aurez plus de, ni d'herbe, ni de pelouse, vous pouvez remettre un petit peu de terreau ou de compost et ressemer. Oui. Mais si vous n'enlevez pas la mousse, malheureusement, votre herbe ne va pas repousser.
Merci beaucoup Marie-Josée, bon courage avec cette mousse qui envahit un peu votre jardin. Je reviens juste Dorothée sur ce terme scarifier, ça veut dire un peu griffer la terre, c'est ça?
Exactement, ouais. Voilà, ça la griffe, ça va ôter la mousse en même temps et puis ça va l'aérer un petit peu. Voilà. Donc en fait, ce que l'on peut faire aussi, ça, c'est vrai que j'aurais pu le dire à Marie-Josée, mais peut-être qu'elle nous entend, oui. On peut remettre aussi un peu de compost sur la pelouse, de manière à ce que ça la refortifie. Le compost, c'est très bien pour la pelouse. Et bon, c'est un tout petit peu tard, parce que comme il va pleuvoir un petit peu moins, enfin on espère, ça va moins vite rentrer dans le sol. Mais en général, une pelouse, pour bien travailler une pelouse, en général, on le fait à l'entrée de l'automne. Voilà, ou à l'entrée de l'hiver, pardon. De manière à ce qu'elle s'enracine bien. Mais bon, elle habite Annecy, Marie-Josée, c'est un climat un peu moins chaud que chez nous, donc ça peut aller. Mais il faut nourrir sa pelouse pour éviter que la mousse reprenne le dessus.
Merci Marie-Josée en tout cas pour votre appel au 04 72 38 20 23. Une remarque de Véronique sur WhatsApp au 04 72 38 20 23. Il ne faut pas trop tondre sa pelouse à cette saison parce que les insectes se réveillent et qu'ils ont besoin de petites fleurs et de quelques endroits laissés en friche pour se restaurer. Et l'été, il ne faut plus tondre à ras comme on faisait avant pour lutter justement contre la sécheresse. Laisser au moins une aire de 17 cm, ça permet à la terre de garder une température modérée, même en cas de sécheresse. C'est intéressant ce
exactement,
que nous dit Véronique.
Exactement. Ouais. En fait, plus on la graminée, plus on la tond, plus elle pousse. Contrairement aux autres, plus on la tond, plus elle pousse. Donc, plus vous, si vous voulez moins tondre, il faut la laisser un peu grandir. Donc là, et puis, exactement, elle va moins se dessécher. Donc, elle a tout à fait raison. Et après... quel est le degré d'acceptation d'une pelouse haute et tout ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est par exemple, on peut tondre un petit peu devant sur la partie où on se tient le plus. Et puis le reste, on peut faire des allées avec sa tondeuse. Ça peut être très joli de faire des allées. Vous avez les fleurs qui vont pousser, les pâquerettes, enfin toutes les fleurs un petit peu indigènes de votre jardin. Et vous faites des allées pour aller ensuite à des endroits où vous allez régulièrement. Mais le reste, vous le laissez un petit peu fleurir et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux, par exemple, je prends le chardonneret. Le chardonneret adore manger les graines de plantain. Il en est friand. Et ça, si on tond sa pelouse, vous n'en aurez pas. Pareil pour le pissenlit. Le pissenlit adore être butiné par les abeilles ou les bourdons. Si vous coupez les pissenlits, il y a des gens qui détestent avoir des pissenlits dans leur jardin. J'avais un ami qui me disait « Oh, mais moi, les pissenlits, je rache tout. » Bah, c'est un peu dommage parce que, quelque part, bah, ça nourrit aussi la faune de son jardin. Alors, il faut regarder le niveau d'acceptation. C'est comme les gens qui vont dire « Ah ben moi, au printemps, je vais tailler mes haies et tout ça. » C'est un peu une hérésie de tailler les haies au printemps parce que c'est l'endroit où nichent tous nos oiseaux du ciel. Et à partir du moment où on les dérange, eh bien, les oiseaux vont pas nicher ici. Et on sait comment la disparition des oiseaux du ciel est importante dans notre pays. Donc, il faut faire très, très attention. Aussi bien en débroussaillage du sol, parce qu'il y a des oiseaux, par exemple, comme les merles, ils ne nichent pas dans les haies, mais ils nichent au sol. Donc, si on passe le rotophile, parce qu'on veut que ça soit propre, ouais. On détruit l'habitat. Si on veut tailler les haies, on détruit les habitats des mésanges, des chardonnerets. Et je me rappelle toujours un exemple que disait un technicien de la LPO. Il disait le pire moment pour les oiseaux, ça a été pendant le confinement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait fait super beau. Oui. Et en fait, les gens, comme ceux qui avaient un jardin, ils ont jardiné, mais comme des malades. Et en fait, les jardins étaient tellement impeccables que les oiseaux, ils n'avaient plus d'endroit où nicher. Tellement ça avait été tondu, les haies étaient au carré. Alors les gens vous disaient « Ah là là, j'ai fait un jardin cette année, j'ai jamais fait un aussi beau jardin ». Ouais, mais bon, t'as un peu aussi détruit l'habitat de nos amis, les volatiles, les insectes, voilà.
Donc voilà, il faut laisser quand même la nature travailler un peu toute seule pour... c'est la biodiversité, et c'est ce que vous dites souvent d'ailleurs.
Oui, et puis il faut essayer de se dire quelle part moi, en tant que jardinier, je laisse à la nature. Voilà, parce qu'en fait, je suis un énorme prédateur. Mais quelle part, moi, je laisse à la nature? Eh bien, moi, j'essaye, par exemple, de laisser un coin dans mon jardin où je ne vais pas. Je le laisse faire. Alors, il y a des ronces qui s'y mettent, il y a beaucoup d'orties, mais c'est pas mon endroit, c'est l'endroit que je laisse à la nature. Voilà, donc... vous allez me dire, c'est facile si on a un grand jardin, et si on a un petit jardin, c'est plus compliqué. Mais il y a quand même des choses à faire, et chacun fait en fonction de ses moyens, mais il faut en être conscient.
Allez, 10h15 dans Prenez-en de la graine. On va écouter de la musique, Dorothée, et ça va vous laisser le temps de nous appeler au 04 72 38 20 23 pour venir poser toutes vos questions de jardinage. On vous attend et on vous accueille avec grand plaisir. Je vous laisse le choix, Dorothée, entre trois chansons. Une d'un certain Tom Poisson, une de Paola ou d'Indochine. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre ce matin ?
Je trouve ça rigolo ce nom de Tom Poisson.
Eh ben, on va écouter Tom Poisson avec une chanson qui s'appelle « Il y a du bruit » et vous en profitez, on vous attend 04 72 38 20 23 avec toutes vos questions de jardinage.
Est-ce que tu sens l'odeur du journal de 20h? Est-ce que tu sens monter la peur incandescente? Est-ce que tu sens la frousse et l'envie qui te pousse comme un vent de panique qui souffle sur les pentes? Ah, vite choisir ton camp. Ah, porter son drapeau. Ah, avant même de comprendre quel en est le credo. Et du bruit, et du bruit, je ne m'entends même plus réfléchir. Et du bruit, et du bruit, est-ce qu'on peut ralentir? Et du bruit, et du bruit, peut éviter le pire. Et du bruit, et du bruit, est-ce qu'on peut revenir? Est-ce que tu sens l'odeur du journal de 20h? La fin d'un modèle épuisé, obèse. Est-ce que tu vois le vide, les discours insipides de ces bonimenteurs qui soufflent sur la brèche? Ah, diviser tout le temps. Ah, ne pas voir venir. Ah, abîmer les gens, bousiller l'avenir. Y'a du bruit, y'a du bruit, je ne m'entends même plus réfléchir. Y'a du bruit, y'a du bruit, est-ce qu'on peut ralentir? Y'a du bruit, y'a du bruit, est-ce qu'on peut éviter le pire? Y'a du bruit, y'a du bruit, est-ce qu'on peut revenir? Et au lieu de brailler, est-ce qu'on peut essayer de rien dire du tout? Et seulement d'écouter, et seulement respirer. Y'a du bruit, du bruit, je ne m'entends même plus réfléchir. Y'a du bruit, y'a du bruit, y'a du bruit. Y'a du bruit, y'a du bruit, je ne m'entends même plus réfléchir. Y'a du bruit, y'a du bruit, est-ce qu'on peut ralentir?
Il y a du bruit, c'était Tom Poisson pour vous accompagner en ce vendredi matin. Belle découverte pour vous, Dorothée ?
Oui, j'aime bien, puis j'aime bien ce qu'il dit. Voilà.
Il y a du bruit.
Le bruit, c'est quelque chose qui est difficile à supporter. J'habite à la campagne, mais quand j'ai à Bordeaux, j'habite en pleine ville. Et là, je trouve ça infernal. Les gens qui ont des pots d'échappement, les qui klaxonnent. Mais je trouve ça infernal, quoi. Alors, je ne sais pas si... parce que je n'ai plus l'habitude, mais... Oh, C'est vrai que ça doit m'empêcher de réfléchir.
En tout cas, il y a du bruit ce matin dans Prenez-en de la graine, au moins jusqu'à 11h. On continue.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Bonjour Bruno. Bruno, est-ce que Bruno, vous êtes avec nous depuis Asnières-sur-Seine?
Tout à fait.
Eh bien, on vous écoute, bienvenue.
Alors, bonjour Bruno. Alors, j'aurais peut-être deux questions. Une question très rapide sur le purin d'ortie. J'ai du purin d'ortie qui a gelé. Est-ce que je peux encore l'utiliser?
Vous pouvez peut-être l'utiliser, mais je pense qu'il y aura ça... aura un petit peu moins d'efficacité. Vous pouvez faire un test. Vous prenez du purin pur, vous le mettez sur une mauvaise herbe, une herbe indésirable, et vous regardez si elle noircit pas au bout de deux jours, c'est qu'il est plus bon. Voilà.
D'accord.
C'est un petit test à faire. Donc okay. Si voilà, et sinon vous le jetez dans un coin du jardin.
D'accord. La question, je voudrais faire des bouturages de buis.
Oui.
Est-ce que c'est la bonne période? J'ai des buis qui partent à toute allure. Je voudrais replanter d'autres petits buis à côté. Est-ce que c'est la période pour faire le bouturage? Et avec de l'hormone de croissance.
Ouais, l'hormone de bouturage. Vous pouvez le faire maintenant. Après, ça va être l'endroit où vous allez stocker vos brins de buis. Il faudra vraiment les stocker dans un endroit très ombragé.
Okay,
je
ne
sais pas
oui.
si vous m'entendez, Bruno. Très ombragé. Et
oui.
Si vous n'avez pas de cloche ou de serre dans un endroit ombragé, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un sac en plastique transparent autour de votre pot de manière à lui faire comme une petite serre. Et vous l'arrosez bien. Et en principe, ça prend assez vite. C'est très facile, les boutures de buis. Hein. Alors, c'est
oui,
pas obligatoirement la meilleure période, mais de toute façon, c'est tellement facile à faire qu'il n'y a pas de souci.
C'est quand la meilleure période?
Moi, je le ferai plutôt fin d'été, quoi, sur des bois aoûtés. Parce que si vous prenez des pousses un peu trop jeunes de vos buis, elles risquent de ne pas prendre.
C'est
en principe, tous les bouturages se font sur des bois aoûtés, donc à la fin de l'été. Mais vous pouvez essayer quand même, hein.
Sachant qu'il est
en Île-de-France. C'est amusant à faire.
Ouais, sachant qu'il est en Île-de-France, Bruno.
Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Là, c'est fini, les périodes de gelée, c'est fini.
Ouais.
Voilà. Le problème, c'est ça, c'est que si on les fait sur des bois trop, des branches trop jeunes, parce que là, vous me dites, oh, ça part de partout. Donc, mais c'est pas sur ces types de branches que on le fait, c'est sur des branches un peu plus ligneuses.
D'accord.
Voilà,
est-ce que je peux me permettre une troisième question?
Allez, parce que vous êtes gentil. Allez-y.
Quel est l'entretien des arbres fruitiers en avril?
Maintenant, c'est trop tard, quoi. Maintenant, c'est trop tard pour faire de la taille, parce que
taille
tout est en fleurs, quoi.
Est-ce qu'il faut prévenir contre des insectes, ou il faut le laisser pousser?
En fait, en jardinage naturel, on intervient qu'à partir du moment où on voit la maladie. Voilà. Mais c'est comme en produits chimiques en général. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, si vous avez des arbres fruitiers, vous pouvez les badigeonner de chaux. Vous voyez, ça c'est intéressant pour éviter que les insectes ne viennent monter trop au pied de le long des troncs des arbres. Ça c'est pas mal, ça leur fait du bien. Vous pouvez les nourrir. Un arbre en bonne santé, c'est un arbre qui va beaucoup mieux résister à la maladie. Donc vous pouvez encore mettre du fumier, vous pouvez... Il faut savoir que plus l'arbre est vigoureux, moins il développera de maladies. Donc voilà, c'est plutôt quelque chose pour le fortifier et non pas intervenir en amont d'une éventuelle maladie qu'il n'aura peut-être jamais. Vous voyez ?
Merci Bruno, merci beaucoup pour vos questions ce matin dans Prenez-en de la graine. Et on salue les auditeurs de Radio Notre-Dame en Ile-de-France qui nous écoutent chaque vendredi dans cette émission. Et puis également les auditeurs de Radio Fidélité à Nantes qui sont également fidèles de Prenez-en de la graine. Une question de... Alors attendez, parce que j'en ai reçu beaucoup, il faut que je fasse le tri quand même avant d'accueillir Josiane dans un instant. Bernadette, j'ai un problème tous les ans dans mes tulipes qui sont envahies de petites petites mouches noires, fines et volantes. Je pense qu'elles se nourrissent du mielat de la fleur. Est-ce qu'elles viennent de la terre? Et comment traiter ce problème, sachant qu'elle habite en Gironde, pas très loin de chez vous, à Mérignac?
Oh là là. La mouche de la tuile.
Oui, je vous ai séché, là.
Pas trop calée. Moi, ce que je ferais, par exemple, comment elle s'appelle, notre auditrice?
Bernadette.
Voilà. Ce qu'elle peut faire, par exemple, voyez, on parlait de purin, elle peut pulvériser un peu de purin d'ortie. Ça peut être très bien. Voilà, ça va éloigner les insectes. Après, je ne suis pas très calée, je ne vais pas trop m'aventurer autour de la question.
Bon, voilà. Écoutez...
D'où elles viennent, je ne sais pas.
Mais alors, c'est aussi par écrit, parfois c'est compliqué quand on reçoit des mails de savoir vraiment.
Oui, parce que je pourrais poser des questions.
Exactement.
Mais là,
Donc Bernadette, si vous nous entendez, appelez-nous. C'est plus simple peut-être hein, pour répondre à votre question au 04 72 38 20 23. Bonjour Josiane.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Bonjour Josiane.
Bonjour. Je vous appelle de Paris.
Oui.
Et je n'ai pas de jardin, mais j'ai des rebords de fenêtres chez ma fille en banlieue, à Ivry. Elle a un balcon.
Oui.
Donc, nous avons essayé de planter des canas, des graines de canas.
Oui.
Vous connaissez? Allô?
Vous connaissez,
oui,
Dorothée?
Oui. Oui. C'est une très vieille plante.
La graine de canas.
C'est une très vieille plante.
Ouais.
Ouais. Ça peut être très grand, hein, le canas. Attention, Josiane. Hein.
Bonjour. Mais je n'arrive pas, ça ne pousse pas du tout. Alors je me suis posé la question, est-ce que ce ne serait pas comme les graines de flamboyant? Vous connaissez les flamboyants
dans les pays, etc.
Donc les graines de flamboyant, j'avais écouté une émission une fois à la télévision, on parlait de cette plante-là, il fallait les ébouillanter, les bouillons un peu, les graines de flamboyant, avant de les planter.
Oui, parce que l'écorce, la graine a une cosse qui est très dure, très souvent.
Exactement.
Très souvent. Ouais. Alors, oui. Moi, les canas, je ne les ai jamais plantés. Je les ai toujours achetés petits, en petits plants. Donc, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est plutôt que de passer trop de temps à faire semer des graines de canas, moi, je vous conseille soit d'aller voir des amis, parce que le canas, c'est vraiment très... ça se développe très, très bien. Donc, peut-être d'aller chercher plutôt des petits plants de canas que vous plantez vous-même. Passez pas trop de temps à semer des canas. Moi, personnellement, je n'en ai jamais semé, mais si j'étais vous, en jardinerie, vous allez trouver ça pour rien du tout, des petits plants de canas.
Voilà, je sais pas, on a Josiane. Josiane. Non, Josiane, vous êtes là. Est-ce que ça vous va comme réponse?
Mais tout à fait.
Eh ben, c'est super.
Bien. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne fin de semaine.
C'est très gentil.
Merci, Josiane.
Merci beaucoup, Josiane, pour votre question ce matin dans Prenez-en de la graine au 04 72 38 20 23. Vous en avez, vous, Dorothée, des canaches?
Alors, je vais vous faire un aveu. Mon mari adore ça.
Et vous,
moi,
vous n'aimez pas.
Je déteste ça. Ah, donc, en fait, souvent, Jacques me dit, c'est bizarre, les canas ne poussent pas à la maison.
Mais je vous mettez du poison?
Non, je les entretiens. Pour moi, c'est une... Je ne sais pas, je ne trouve pas ça joli. Voilà. Alors qu'il y a des gens, mon mari adore, vous en avez des oranges, des rouges, des jaunes. Voilà, c'est une plante qu'aime bien, mais qui est très prolifique. Hein. Si un endroit, ça se plaît, ça se plaît dans des sols assez riches, dans du compost. Et en fait, très souvent, quand les gens ont des canas, mais ils en ont énormément. Quoi. Alors, j'avoue que j'y prends pas trop soin aux canas, donc...
Voilà, ça c'est...
Ça c'est dit.
Ça reste entre nous, hein. Il y a personne qui
voilà.
Écoute.
Voilà, exactement, c'est pour ça que je vous fais cette petite confiance. Ouais.
À suivre, Jacqueline, au 04 72 38 20 23. Je vous lirai également une question de Fred, qui habite à Marseille, qui a un problème avec ses avocats. Et puis Sabine, qui a un problème avec un camélia. Voilà pour le programme. Vous continuez, vous restez branchés, prenez-en de la graine. Je vous dis à tout de suite.
Prenez-en de la graine. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et avec Dorothée Fallière, jardinière au naturel, qui répond à toutes vos questions ce matin au 04 72 38 20 23 et puis également par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Fred nous dit « Je suis assez bon dans le jardinage, mais J'ai un problème, je ne suis jamais arrivé à faire pousser un noyau d'avocat. J'ai essayé dans l'eau immergée à moitié, au bord de la fenêtre, avec changement de l'eau tous les 3 jours ou toutes les semaines. J'ai essayé aussi directement en terre. Quel conseil vous pourriez me donner ? Alors, Dorothée, il va falloir éviter d'aller en justice avec ce problème d'avocat.
Ouais, le problème des avocats, c'est qu'en fait, ils restent très longtemps dans nos, dans nos frigos. Ouais. Ils sont récoltés, je pense, très, très verts. Donc, en fait, ces noyaux, en fait, ils ont pas toutes les chances de leur côté pour pouvoir ensuite germer dans l'eau. Il faut, je lui dirais qu'il faut qu'il soit persévérant. Alors, pour le faire germer, il faut pas qu'il le mette dans la terre, parce que le problème de l'avocat chez nous, c'est pas une plante qui pousse, hein, naturellement, elle va geler. C'est une plante vraiment d'intérieur chez nous. Donc là, pas question de le faire germer à l'extérieur, ça ne marchera pas. Par contre, il faut qu'il soit persévérant. Moi, je lui conseillerais plutôt d'acheter des avocats déjà de belle qualité, qui n'ont pas été ramassés trop verts. Des fois, vous avez dans les magasins, vous avez des avocats, mais vous pouvez jouer à la pétanque avec pendant 15 jours avant qu'ils soient mûrs, quoi. Mmh. Donc, plutôt acheter un avocat qui est déjà maturé. Voilà. Donc, mais il y a une chance sur peut-être 10 pour que ça marche. Alors, il y a des gens qui sont plus chanceux que d'autres. Il y a plusieurs variétés. Vous avez le gros vert, là, l'avocat, puis vous avez celui un peu plus brun, un peu grumeleux. Donc, il faut qu'il essaye et qu'il soit persévérant, mais surtout qu'il continue à le faire chez lui, dans sa cuisine, avec ses petits pots de yaourt et ses 4 pics pour pas qu'il soit complètement immergé.
Une sacrée affaire d'avocat. Bon courage, Fred, en tout cas, avec votre noyau d'avocat, pardon. Bonjour Jacqueline.
Oui, bonjour, merci.
Et avec grand bonjour, plaisir. Jacqueline, vous êtes à Antony, c'est à côté de Paris, ça.
Ouais. Tout à fait.
On vous écoute.
Et ma question, c'est que j'ai planté 2 camélias dans un jardinet, et il y a un camélia qui actuellement est fleuri, magnifique, qui mesure à peu près 1,20 m, et l'autre de 80 cm, à la fin de l'hiver, était très très fleuri en boutons, mais les boutons n'ont jamais éclos. Et actuellement, il ne reste plus que 2 boutons sur, j'allais dire, la vingtaine de boutons qui étaient là et qui ont disparu, qui sont tombés donc en terre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?
Ah. Alors, est-ce que vous savez un peu quel type de terre vous avez ?
Eh bien, j'ai une terre de bruyère.
D'accord.
Et puis, comme j'ai mis des tulipes, donc j'ai mis aussi de la terre normale. Du
d'accord.
Terreau.
D'accord. Donc, ils sont tous les deux, je peux dire, dans la même composition de terre.
Oui. Si, d'accord. Dans le jardinier.
Parce que très souvent, on met de la terre de bruyère et au fur et à mesure que son camélia pousse, le système racinaire n'est plus dans la terre de bruyère, mais dans une terre, par exemple, qui peut être un peu plus calcaire. Et à ce moment-là, le camélia a tendance à dépérir. Donc ça peut arriver. Vous voyez que le camélia ne soit plus dans son habitat préféré. Donc, en général, la principale raison de la chute des boutons de camélia, c'est la baisse de température brutale. C'est-à-dire qu'il fait très chaud. Et ça baisse. Alors, ce qui est un peu bizarre dans votre cas, c'est qu'il y en a un qui se porte très bien et un autre qui se porte pas bien. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que ce camélia qui ne se porte pas bien, il faudrait le transplanter et refaire une fosse pleine de terre de bruyère. Ça se peut qu'il ait une zone qui ne lui plaît pas. Donc, moi, si c'était moi, c'est ce que je ferais. Voilà.
Eh ben bon courage Jacqueline, vraiment, avec ce camélia. Ça rejoint une question de Sabine reçue par mail et qui nous dit: j'ai un camélia dans un pot sur le balcon depuis 2 ans. L'an dernier, il n'a fait qu'une fleur. En décembre, j'ai mis un peu d'engrais. Il a 6 boutons actuellement, mais il n'évolue pas depuis plusieurs semaines jusqu'à la floraison. J'ai peur qu'il se fane sans jamais s'épanouir. Je suis en région parisienne, orientée à l'abri des vents, à mi-ombre, mi-soleil. Que puis-je faire? C'est un peu la même question que Jacqueline.
Voilà, donc le camélia. Camélia, c'est une plante de terre de bruyère et c'est une plante qui n'aime pas le soleil direct. Donc déjà, son pot est bien placé. Par contre, c'est une plante qu'il faut qu'elle nourrisse. Une plante en pot, il faut la nourrir. Donc il faut qu'elle remette de la terre de bruyère. Alors comme c'est une plante en pot, elle en remet dessus. Voilà, elle leur remet de la terre de bruyère dessus et il faut qu'elle le nourrisse. Donc, elle peut acheter dans sa jardinerie préférée un mélange de corne de broyer et de sang séché. Mmh. Ça existe dans le même paquet et qu'elle en mette au-dessus. Elle griffe un peu sa plante, peut-être avant de mettre de la terre de bruyère. Elle griffe un peu, elle met ce mélange de corne broyée et de sang séché et ensuite, elle peut remettre un peu de terre de bruyère. Quitte à enlever un peu, si la hauteur de la terre est déjà très, très importante, elle peut enlever un peu de terre, mettre son sang séché, sa corne broyée, remettre de la bonne terre. Jacqueline, elle peut aussi, si elle ne veut pas complètement le déplanter, elle peut remettre de la terre de bruyère dessus. Mais moi, si j'étais Jacqueline, c'est un problème qui est plus profond. Et moi, je referais un peu une fosse pour son camélia qui est en moins bon état que l'autre.
On a un nouvel élément dans l'affaire de l'avocat raconté par Fred tout à l'heure. C'est Lionel qui nous a envoyé un message sur WhatsApp au 04 72 38 20 23. Il nous dit « Mangeant régulièrement des avocats, les noyaux germent tout seuls sur le tas de compost. »
Oui. Alors, le problème, c'est qu'on peut... Ensuite, il faut absolument les rentrer. Mais tout dépend... Tout dépend où est-ce qu'il se trouve et puis le type d'avocat qu'il a pris. Voilà, moi je sais que j'en ai fait. Il y en a qui n'ont jamais germé, il y en a qui ont germé. Alors, je pense que ça vient aussi du noyau même. Voilà. Après, celui qui germe sur son tas de compost, il faut absolument ensuite le mettre en terre et le remettre à l'intérieur parce que ce n'est pas une plante qui va pouvoir résister à nos écarts de température. C'est une plante qui pousse en Israël, qui pousse dans les pays d'Afrique. Voilà, c'est une plante qui n'aime pas des températures trop basses. Et chez nous, dans nos maisons, c'est une plante qui aime le soleil mais qui aime aussi l'humidité.
Bonjour Paul. Vous êtes en voiture, faites attention, on vous écoute.
Voilà, mais je m'arrête.
Très bien.
Voilà, j'aime beaucoup votre émission et votre intervenante est fort sympathique. Je me permets juste un petit correctif.
Ah.
En fait, il faut éviter de badigeonner les troncs fruitiers avec de la chaux parce qu'on va supprimer des ravageurs, mais on va supprimer aussi des auxiliaires. Et en préventif, par rapport à ce qu'on fait en formation, nous, il est préférable de favoriser au maximum l'équilibre, enfin les auxiliaires par rapport aux ravageurs. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est fait beaucoup et qui est peut-être un petit peu dommage.
Dorothée.
Moi, je pense que toute expérience est bonne à prendre. J'entends très bien ce qu'il dit. Voilà, Je l'entends et je le comprends. Voilà. Après, c'est une question. Moi, je pense qu'il faut essayer. Il faut essayer les deux et ensuite la personne, elle se fait son propre. Il a raison. Hein, quand on détruit des auxiliaires, c'est toujours embêtant. Mais tout dépend l'état de l'arbre. Sur des vieux arbres, ça peut être intéressant de badigeonner. Sur des jeunes arbres qui n'ont pas de problème et qui sont en pleine santé, il n'y a pas de souci. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense qu'un jardinier, c'est beaucoup l'observation qui va le faire grandir dans ses manières et dans ses pratiques. Mais vous avez raison de dire ça parce que c'est vrai. C'est vrai.
Merci Paul. On va vous laisser. Oui.
Est-ce que des greffons qui ont passé 12 heures au congélateur par erreur, est-ce qu'ils sont foutus ou pas?
Pour
ça,
moi,
ça
oui.
Ça commence à faire,
pour
12 heures.
Oui,
là, ouais.
Pour moi, oui. Après, vous pouvez essayer de les sortir, de les garder dans un endroit frais, et vous allez voir très très vite si l'écorce se détache. Là, ça veut dire que là, ils sont foutus, quoi.
Ouais. Bon, ben, merci Paul. On va vous laisser reprendre la route. Vous allez où?
Au Puy-en-Velay.
Ah, ben, très bien. Et ben, bonne route vers le Puy-en-Velay. Et merci de nous écouter
Paul.
Sur la route. Faites attention hein, au 04 72 38 20 23. Allez, on accueille tout de suite Bernadette à Mérignac. Je pense que c'est l'affaire des tulipes qui revient. Bonjour Bernadette.
Oui, bonjour monsieur. Merci de m'avoir pris. C'est la première fois que je. J'appelle une radio.
Alors eh ben, bienvenue.
Je suis un peu impressionnée.
Non, mais tout se passe bien.
Merci beaucoup. Alors voilà, c'était pour mon problème de tulipes. Elles sont très belles, mes tulipes. Mais tous les ans, alors j'ai des fourmis volantes ou des mouches, je ne sais pas, noires, qui envahissent le cœur de la fleur. Et puis sur toutes les tulipes. Voilà, et je ne sais pas comment traiter ça, d'où ça vient, je ne sais pas.
D'accord, mais ça, est-ce que ça abîme? Est-ce que ça abîme la tulipe?
À force, oui, ça abîme, oui. Oui.
Est-ce qu'elle mange les tulipes?
Je crois qu'elles doivent sucer, je ne sais pas. On m'avait dit une fois que c'était le miella, je ne comprends pas. Je vois dans d'autres jardins, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans les massifs auprès de la mairie, tout ça. Je ne vois pas tout ça. Je ne vois pas tous ces insectes.
Et ces insectes... Mais... Pardon, Dorothée, je me permets
une
question.
Allez-y.
Est-ce que les insectes viennent manger d'autres plantes
Non. Et uniquement les tulipes.
C'est incroyable, ça.
Dès que les tulipes sont là, fleurissent, hop, elles sont là. Puis après, quand je les jette, les tulipes, je les arrache. Ben c'est fini. Il n'y en a plus.
Oui, elles doivent venir manger peut-être le pollen ou je sais pas le côté sucré.
Il y a quelque chose qui les attire, mais après j'ai plus ces insectes.
Ben c'est que sur les tulipes. Alors Dorothée, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ben écoutez, moi ce que je ferai, j'irai acheter du purin d'ortie et en pulvérisation et vous pulvérisez sur vos orties et sur vos tulipes parce que le purin d'ortie peut aussi avoir un effet insecticide et regardez ce que ça fait et peut-être que ça peut être intéressant.
Voilà. Alors dans le cœur de la fleur, dans les
cœur de la fleur, vous mettez un petit peu de purin d'ortie, vous allez le trouver en pulvérisation et ça peut éloigner les petits moucherons.
Je me disais, c'est dans la terre, peut-être. Elles pondent des œufs dans la terre et elles ressortent, je ne sais pas.
C'est la première fois que vous remarquez ça?
Ah non, ça fait 2-3 ans maintenant, oui. Oui. Alors, je me suis dit que c'est dans la terre, mais bon, je ne sais pas.
Je ne suis pas une spécialiste, donc mais vous savez, il faut essayer, quoi. Essayez un peu avec du purin d'ortie, ça peut être intéressant.
Bon courage Bernadette et vous nous rappellerez si jamais ça fonctionne, dites-le nous aussi, c'est intéressant.
Oui, voilà. Bien sûr, je vais essayer, je vais acheter ça tout à l'heure.
Top, merci beaucoup Bernadette.
Merci.
Et je vous dis à bientôt dans Prenez-en de la graine. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23 ou vous envoyez des mails à l'adresse direct@rcf.fr. Une question de Bénédicte. J'ai débroussaillé les ronces sur plus de 1000 m². Des arbres en étaient recouverts, mais ça repousse à certains endroits et il y en a un peu partout sur notre terrain fruitier et avec les herbes, hein, 4000 m² en tout, ça fait un grand jardin quand même. J'en arrache bien sûr, mais c'est un boulot monstre sur un tel terrain. Est-ce qu'il y a une solution pour s'en débarrasser facilement, Dorothée, les ronces?
Non. Oui, à part mettre un désherbant.
Ah ouais, alors ça non.
Voilà, mais non, ce qu'il faudrait que vous fassiez, Bénédicte, c'est que quand vous la déracinez, faudrait aller le plus profond possible. Et puis ensuite, si c'est un endroit où vous pouvez passer la tondeuse, à force de passer la tondeuse sur les jeunes repousses, la ronce va s'épuiser. Mais non, malheureusement, il n'y a pas trop d'autres solutions, quoi. Il n'y a pas trop d'autres solutions qu'un arrachage mécanique, quoi.
Bon courage, parce que les ronces, c'est vraiment... quand on y en a dans un jardin, c'est un enfer, hein, parfois, pour s'en débarrasser.
Oui, mais après, tout dépend si on peut passer un engin mécanique. Si on peut passer un engin mécanique, quelque part, on arrive à quand même les éradiquer. Hein. Voilà, ça dépend où est-ce qu'elles sont placées, mais à force, vous lui passez la tondeuse plusieurs fois par an sur les jeunes repousses, ça s'épuise quand même au bout d'un moment. On y arrive, quoi. Sinon, c'est la binette, la pioche, et on déracine au maximum. Ouais,
et ça fait les bras.
Et après, c'est un entretien. C'est un entretien, sinon. La nature, elle reprend ses droits. C'est pour ça qu'on a, on a une nature si belle, et puis que la nature est résiliente. Voilà, c'est que nous les humains, on est les gros prédateurs, on veut pas ces ronciers, donc alors que ces ronciers, ça donne des petites baies pour les oiseaux, ça sert de nichoir, enfin de protection pour les oiseaux lorsqu'ils veulent nicher. Voilà, c'est qu'en fait nous on veut pas ça. Voilà, on veut pas ça, donc il faut accepter que ça soit compliqué à enlever. Voilà.
10h45 dans Prenez-en de la graine, voici Paola qu'on va écouter tout de suite, et dans un instant c'est Marie-Hélène et Josette qui viendront poser leurs questions au 04 72 38 20 23.
ils se posent ici et là. C'est pas pour toi, rien que pour moi, que j'ai sorti mon plus beau bas. Je me suis oubliée trop de fois. Quand vient le il avant le moi. Ce soir je me fais la belle. Loin de tout ça, je me ferai belle, trop belle. Je me fais la belle, loin de tout ça. Je me ferai belle, trop belle, rien que pour moi. Ce soir je me fais la belle, loin de tout ça. Je me ferai belle, trop belle, rien que pour moi. Ce soir je me fais la belle.
Belle, c'était Paola pour vous accompagner en ce vendredi matin.
Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et il nous reste une grosse dizaine de minutes avant la fin de cette émission, toujours avec Dorothée Fallière, jardinière naturelle, qui répond à toutes vos questions ce matin. Bonjour Marie-Hélène.
Oui, bonjour Dorothée, bonjour Melchior, merci
bonjour
pour votre
émission.
Bonjour, je vous appelle moi parce que voilà, j'ai des orchidées qui sont malades, elles ont, je pense que c'est les cochenilles, et ça fait déjà presque plus d'un an, et j'essaye de les soigner comme je peux, donc j'utilise du savon noir pour nettoyer, j'essuie régulièrement les traces que je vois. J'ai même fait un traitement avec spécial cochenille, algo flash, et ben ça revient. Et je pense que ça fait mourir un peu les fleurs prématurément, parce qu'elles tombent assez rapidement, et pourtant je surveille bien, mais j'arrive pas à m'en défaire.
La cochenille, je vais vous donner une astuce que j'avais découvert quand je travaillais dans une pépinière. Alors, c'est possible pour l'orchidée, c'est que vous allez tremper votre orchidée pendant 2 jours dans l'eau. Alors, ça va être un peu effrayant. Vous l'immergez complètement pendant 2 jours. Alors, vous attendez qu'elle ait plus de fleurs, comme ça. Vous attendez qu'elle soit défleurie. Quand elle sera défleurie, ça vous fera moins mal au cœur. Vous l'immergez, peut-être dans un grand vase avec un col très long, vous l'immergez pendant 2 jours. Et la cochenille, elle déteste être noyées et elles vont partir. Elles vont mourir en fait.
D'accord.
Et ça marche très très bien.
D'accord.
Je vous donne ma petite astuce parce que je la donne à plein de gens.
D'accord.
Après vous pouvez toujours faire du savon noir, de l'alcool, mais c'est très fastidieux. Ça c'est radical. L'immersion totale pendant 2 jours de votre orchidée. Après vous la faites bien sécher hein, parce que l'orchidée ça aime l'eau, mais enfin ça avec modération quand même. Hein.
D'accord.
Voilà.
Sinon, pour les arroser régulièrement, les faire tremper à peu près toutes les semaines, une demi-heure dans l'eau, les racines, c'est bien
ou c'est même presque un peu trop. Vous savez, moi, mes pots d'orchidées, une fois par semaine, ils sont sur la fenêtre de ma cuisine, je prends le pot, je fais couler de l'eau un peu tiède, hop, je lui mets un peu là, je mets ça dans le pot, je la laisse égoutter et je la remets. Vous voyez, je la laisse même pas tremper, quoi. Mais parce qu'elles, moi, elles sont dans ma cuisine, et dans la cuisine, il y a de l'humidité. C'est comme si vous les mettez dans votre salle de bain. Là, elles ont de l'humidité, et les racines, en fait, s'abreuvent de l'humidité ambiante. Après, si vous les avez dans un salon, où c'est plus sec, ça dépend où vous les avez. Mais, voilà. C'est pas la peine de les laisser tremper trop longtemps. Hein. Une demi-heure, ça me paraît beaucoup, même.
Voilà, Marie-Hélène.
Bon, écoutez, ben, merci beaucoup.
Eh ben, merci à vous.
Essayez mon petit truc, vous allez être surprise, c'est, ça marche super bien.
Oui, ce qu'il y a, c'est qu'elles refont des boutons régulièrement, donc au bout d'un moment, je
vais quand même... Il va falloir... À un moment, il faudra se lancer. Quand vous vous sentirez qu'elle est un peu moins belle, hop, vous la trempez. Mais vous verrez que les cochenilles, elles vont disparaître.
Hein. D'accord, et ben merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci à tout bientôt, Marie-Hélène, et merci pour votre appel. Oui, Dorothée.
Mais oui, Melchior, j'ai pensé à un truc pour Bernadette. Vous savez, avec ses moucherons sur ses tulipes, elle peut faire un truc. Plutôt que d'aller acheter quelque chose, elle peut faire une petite macération avec de l'ail. Ça, ça marche très très bien. Elle prend un, vous savez, un truc pour écraser l'ail. Elle met de l'eau, elle laisse macérer. Elle écrase 3-4 gousses d'ail. Elle les écrase avec son truc à cuisine là, et elle laisse macérer son ail avec de l'eau. Et ensuite, elle filtre et elle pulvérise ça sur ses moucherons. Les petits moucherons là, comme ça, ils détestent ça, cette odeur d'ail. Voilà, je déconseillerais ça en intérieur, mais en extérieur sur les tulipes. Et ça lui évitera d'aller acheter quelque chose. Et ça, c'est pas mal, ça.
J'ai
pensé après.
Ça peut être une bonne idée.
Je sais pas si Bernadette nous écoute.
Oh, bah j'espère, si, je pense. Claudine, une auditrice en Belgique, a lu quelque part qu'une décoction de feuilles de rhubarbe était un bon antipuceron. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est un bon insecticide, ouais. C'est un bon insecticide, la rhubarbe. Après, on en trouve un peu moins facilement en jardinerie, mais je pense que... Enfin, moi, je n'en ai jamais fait, mais il paraît que c'est assez facile à faire. Parce qu'en fait, moi, pour les pucerons... En fait, je préfère utiliser les auxiliaires. Tout à l'heure, on avait Paul, vous savez, qui nous parlait des auxiliaires.
Oui.
Et je sais qu'il a raison. La nature, elle a toujours son prédateur. Et le prédateur du puceron, c'est surtout la coccinelle, quoi. Alors, il y en a d'autres, mais la coccinelle, c'est vraiment important. Donc, moi, je serais plus pour utiliser des coccinelles, amener des coccinelles dans mon jardin. Voilà. Mais la rhubarbe, ça marcherait bien. Il vaut mieux utiliser de la rhubarbe, par exemple, qu'un insecticide chimique, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un très bon répulsif. Voilà. Ça marche aussi, la rhubarbe, on l'utilise aussi contre les escargots, les limaces.
Ah oui.
Et pareil, moi, je ne l'utilise pas parce que j'ai une mare et mon répulsif à escargots et à limaces, ce sont les grenouilles. Vous voyez ? Après, tout ça, c'est une question de taille de jardin, de niveau d'acceptation du nombre de pucerons que l'on a sur ces rosiers. Mais franchement, si on privilégie la biodiversité on refait un équilibre dans son jardin, elle ne devrait pas en avoir de trop. Mais qu'elle achète des coccinelles, les larves de coccinelles, plutôt.
Voilà, une bonne idée. Et bonjour Josette.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour Josette.
Bonjour.
S'il vous plaît.
Oui.
J'ai un potager, j'habite en Haute-Savoie, j'ai un potager, j'ai plein de liserons et de chardons. J'arrache, mais ça repousse toujours. Qu'est-ce que je peux faire, s'il vous plaît?
Alors, le problème du liseron, c'est que plus on l'arrache, et si on ne l'arrache pas à la racine, il va repousser. Ce qu'il va falloir faire, c'est cet hiver... c'est mettre une bâche noire sur votre potager de manière à les éradiquer. Voilà. Alors, je pense aussi que vous avez peut-être aussi beaucoup de liserons parce que vous n'avez pas mis trop de BRF, vous savez, ce bois raméal fragmenté. En fait, vous avez un déséquilibre dans votre potager. Il y a un déséquilibre qui favorise l'arrivée du puceron. Du liseron, pardon. Vous avez pas mis beaucoup de compost à base de bois dans votre jardin, non. Dans votre potager?
Non, pas du tout. Non.
Ce qui serait intéressant de faire, c'est d'acheter en jardinerie un petit kit pour analyser votre sol, pour regarder s'il n'y a pas un déséquilibre au niveau nourriture de votre sol. Et pour éradiquer ces liserons, la meilleure chose, c'est de bâcher en noir l'endroit où vous êtes infesté, et de manière à ce que le liseron soit éradiqué. Il n'y a pas trop d'autres solutions, parce que plus vous allez biner et plus vous allez passer, par exemple, le motoculteur, enfin, moi je ne le passe pas, mais il y a des gens qui passent le motoculteur dans leur potager, plus vous coupez le liseron en tout petits morceaux, et là, ça se ressème automatiquement.
Alors, vous savez ce que j'ai, jusqu'à maintenant, j'ai mis du vinaigre à 14 degrés. Est-ce que c'est bon?
Bah oui, mais ça vous tue aussi d'autres auxiliaires. C'est un peu fort, quoi. Ah, moi, je ferai pas ça. Je bon, c'est pas la bonne saison pour le faire. Hein. C'est parce que maintenant, on arrive en pleine poussée du jardin. Mais peut-être qu'à l'automne, vous bâchez votre jardin. Achetez un petit kit pour voir un peu l'état de votre sol au niveau de son équilibre azote, potasse et phosphate. Donc, et regardez un petit peu s'il n'y a pas besoin de rééquilibrer votre potager.
D'accord.
Voilà,
le vinaigre, moi, je déconseille.
Oui.
Ah bon, d'accord. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous.
Merci beaucoup,
bonne
Josette.
Journée.
Merci
revoir,
pour
merci.
Votre appel au 04 72 38 20 23. On arrive à la fin de cette émission. Ça passe très, très vite. On a beaucoup parlé de purin grâce à vous, Dorothée. Ça se fabrique facilement pour rassurer peut-être toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas de grands jardiniers.
Oui, ça se fabrique très facilement. Par exemple, le plus courant des purins, c'est le purin d'ortie. Donc là, c'est très facile. 1 kg d'ortie pour 10 litres d'eau de pluie ou de l'eau pas trop calcaire. Et ensuite, vous attendez 15 jours et vous remuez de temps en temps. Au bout de 3-4 jours, il va commencer à y avoir des petites bulles. C'est-à-dire que ça rentre en fermentation. Soyez pas inquiets, ça sent très mauvais. Ça sent la merde. Hein. Franchement, pour être très clair, ça pue vraiment. Donc, vous mettez ça dans une espèce de bac en plastique. Évitez les bacs en fer. Mettez ça dans un bac en plastique. Et au bout de 15 jours, vous filtrez votre purin. Voilà. Le seul inconvénient, c'est l'odeur. Voilà. Et ensuite, vous pouvez le pulvériser. Alors, il y a plusieurs manières de l'utiliser. Soit on le pulvérise, mais là, il faut le diluer pas mal, environ à 2 à 5%. Hein. 5 millilitres. Non, attendez.
Oula, vous perdez
oui,
dans les chiffres. Oui,
ouais, je ne suis pas très douée. 5%. Soit on l'utilise en arrosage, c'est-à-dire avec un arrosoir, et à ce moment-là, pour 1 litre, pour 10 litres, on met 1 litre seulement de purin. Bon, enfin, 10 litres, ça peut être beaucoup, mais 10% seulement. Et sinon, on peut tremper les graines aussi dans ce purin d'ortie. Et là, on le dilue plutôt à 20%. Voilà. Mais ça, vous trouverez ça facilement sur Internet. C'est très facile à faire. Et le plus fastidieux, c'est presque de ramasser les orties, quoi. Voilà.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Dorothée Fallière, pour vos très nombreux conseils. C'est toujours un plaisir de vous entendre. J'espère que vous avez passé une bonne heure.
Oui, j'adore. Puis j'aime bien parce qu'on a des auditeurs de plus en plus différents.
Ah oui.
On a des Parisiens.
Il y en a pour tous les goûts, exactement.
Exactement, exactement. Et tous les âges.
Exactement.
Et j'adore quand les gens nous reprennent, parce que je trouve ça intéressant que les gens nous fassent part de leur expérience. J'ai bien aimé ce qu'avait dit Paul, par exemple.
Merci beaucoup, Dorothée Fallière. Merci à l'équipe de Bordeaux qui vous accueille en studio. Merci à Antoine, Baptiste et Catherine à la réalisation. Je vous souhaite un très, très bon week-end avec RCF. À très vite.